Bonsoir et bienvenue à vous tous pour ce jour de Fred où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Étienne Daho qui nous revient, mais nous a-t-il jamais quitté ? Avec les chansons de l'innocence retrouvées, un double album à la musique et au texte magnifique, As Always. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Frédéric.
Londres, 18 juillet 2013, c'était l'été ou presque. Allongé torse nu dans l'herbe fraîche, je regardais les nuages se défaire. J'ai fermé les yeux, les images ont défilé. Paris, Montmartre, se laissait porter par un élan complice, intuitif, avec Jean-Louis, un nouveau printemps, des hommes dans les flots, agités, espèrent leur survie. Première chanson qui ouvre la voie, Rome, Camus, un homme qui marche, est-ce lui ? Londres se dissoudre dans la ville, se laisser emplir de tout, marcher inlassablement, les avenues, les ruelles, les parcs, Soho, Seven Rees Mews, le Colony Room, dévoration. Écrire au petit matin lorsque les idées sont claires, encercler, traquer les mots infidèles, les glisser dans une mélodie 100 fois modifiée, torturer, puis marcher encore, hisser les voiles. Fredonner comme un secret au téléphone, la chanson à peine terminée à une amie parisienne. Est-elle vraiment finie ? Est-elle bien là ? Être grisé, qu'une chanson ait encore réussi à envahir mon esprit, mon corps, pour lui permettre de se matérialiser. Voilà, ça c'est un texte de vous, Étienne Daho, avec l'album Les chansons de l'innocence retrouvée. Alors ce qui me frappe, c'est être grisé à l'idée que la chanson puisse se présenter. Vous doutez encore, après 30 ans de chansons admirables et d'une reconnaissance quasi universelle, vous doutez encore, Étienne Daho ?
Oui, totalement, oui.
C'est incroyable.
Enfin, je doute totalement de rencontrer la chanson idéale. Oui. C'est ça mon angoisse. Donc je la traque, je la cherche, je la provoque.
Et vous avez toujours une inquiétude que quelque chose arrive et que ça se passe mal.
L'inquiétude, c'est de pas arriver à faire quelque chose qui soit, enfin que je trouve magique, qui me transporte moi-même, même si c'est pas une très bonne chanson, mais d'arriver à provoquer quelque chose. C'est très difficile d'expliquer le processus d'écrire une chanson, c'est tellement étrange.
Nous sommes rencontrés Étienne Daho. Il y a 32 ans exactement, au sommet de l'Empire State Building.
Oui.
On s'est revus ensuite une ou deux fois, ou deux ou trois fois plutôt, mais très brièvement, et c'était de toute façon il y a 30 ans. Donc ça fait très très longtemps. Et lorsque nous avons parlé ensemble, je vous ai aimé tout de suite, on a parlé d'une femme extrêmement belle dont on va entendre la voix.
Look at me.
What are you trying to do? Force a confession out of me?
You've been holding out, and I want to know why. It'll be easier for you if you tell the truth.
What difference does it make what I say? You've made up your mind I'm guilty.
Are you?
Don't tell me you have any doubts, since you know I didn't kill Diane Redfern. Or anyone else.
Non, je n'ai pas tué Diane Redfern et personne d'autre. C'est Laura. Laura
Jean
Tierney,
oui.
Dans le film de Preminger. Alors, à cette époque-là, vous aviez... parmi toutes sortes de sources pour votre imaginaire, un imaginaire hollywoodien qui était très fort. C'est
oui.
Resté ou ça s'est dilué ?
C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais fait une chanson qui s'appelait Poppy Jean Turney,
oui.
Qui était le résultat d'un espèce de fantasme que j'avais ressenti en voyant le ciné-club. Et le ciné-club avait consacré toute une semaine à Jean Turney. Il y avait des films fantastiques, comme oui. Péché mortel, The Shanghai oui. Gesture. Et je trouvais qu'elle était tellement incroyablement étrange,
oui.
Décadente.
Fragile.
Oui, et sublime.
Oui. Mais on sentait la fragilité dans cette beauté. On sait qu'elle a eu beaucoup de
oui.
problèmes.
Je l'ai rencontrée
psychiatrique ensuite.
Vers la fin de sa vie, vers 85.
Oui, où elle était là, elle allait bien, mais elle prenait beaucoup de médicaments.
Oui, elle parlait hein français. On a oui. vu un échange assez bref, mais... Assez oui. fort.
Alors ce cinéma, il est quand même très présent. Il y a des titres comme ça, Le Grand Sommeil, Duel au Soleil, ce sont des titres de films. Et puis alors, il y a des dans le dernier, dans les chansons de l'innocence retrouvée, il y a des titres, ça pourrait être des titres de films. Le Baiser du Destin, alors là on imagine une sorte de mélo mexicain. Les Torrents défendus, une chose suédoise avec Greta Garbo. La peau dure, c'est la version de la peau douce. Jean de Sailly remplacé, je ne sais pas par qui, par Jean Gabin peut-être. L'étrangère, oui, l'étrangère, ça pourrait être encore Jane Tierney. Et puis Un bonheur dangereux, alors ça, ce sont toutes les actrices aujourd'hui, ça pourrait être Fanny Ardant ou Catherine Deneuve.
Oui, tout à fait, oui, c'est vrai.
Non, le cinéma est très présent.
Oui, les images, mais de toute façon, sont toutes les autres disciplines aussi qui nourrissent une chanson.
Voilà.
C'est la littérature, c'est les photographies.
Ben, on va y venir, parce que c'est très très frappant de voir dans les Inrecuptibles, il y a un chapitre dans le numéro qui vous est consacré, il y a un chapitre appelé La planète Dao. Et ce qui est fascinant avec vous, notamment Étienne Dao, c'est que vous avez cristallisé autour de vous un nombre d'énergies créatrices incroyables durant ces 30 dernières années. Mais je continue un peu sur les femmes après Jane Tierney. Il y a en vous une très grande fidélité aux femmes artistes. C'est-à-dire que vous avez été l'un des premiers à dire « Faites bien attention à Françoise Hardy, c'est vraiment une créatrice exceptionnelle. » Vous avez toujours aimé Sylvie Vartan. Vous avez travaillé pour Lio, avec Lio. Vous avez Élie Medeiros comme amie. Tout ça, c'est très frappant, cette fidélité aux femmes artistes.
Ah oui, il y en a plein. Il y a Brigitte Fontaine, il y a Marianne Faithfull.
C'est ça.
Je pense que c'est très complémentaire, la relation que je peux avoir avec ces femmes, justement.
Une complicité.
Certaines sont des femmes qui ont imprimé ma sensibilité d'enfant ou d'adolescent. Et de les rencontrer et d'avoir justement à un moment donné une envie commune de créer quelque chose, c'est beau. Enfin, je trouvais ça toujours très, très magique, très, très incroyable.
Alors, il y a un être délicieux de notre adolescence. Je dis notre adolescence parce qu'on a une différence d'âge. Je suis un peu plus vieux que vous, mais bon, beaucoup plus vieux que vous. Enfin, disons, on est tous les deux, on a des corps juvéniles. Et alors, on a une petite sœur absolument exquise, qui s'appelle Dani, et avec qui vous avez une autre fidélité. Et avec qui...
Oui. Mais c'est comme ça. C'est des affinités avec des zones d'affinité avec des personnes et on se suit. On ne se voit pas toujours. On est dans des métiers où il faut apprendre la distance, en fait. On voit pas les gens qu'on aime régulièrement.
Qui n'a vu Dani chanter « Papa a épousé la bonne » à l'Alcazar à la fin des années 70 ne sait pas ce que c'est que le bonheur sur Terre.
Oui, mais je n'ai pas vu. Hein.
Oui, ouais. Bah, vous l'avez vu quand même avec une sorte de retour d'amour parce que l'amour revient souvent comme un boomerang.
Oui.
Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à la bringue et ton amour m'ont épuisé.
Il me dit, c'est maintenant qu'il faut que tu chantes. Et voilà, c'est...
Et pourquoi personne ne veut de ce morceau à l'époque? C'est vous qui dérangez, Dani?
Oui, je pense, oui. C'est normal, d'ailleurs. Parce que j'ai fait beaucoup plus de choses derrière moi que devant. Sur les computers, moi, je ne suis pas une nouvelle chanteuse. Je suis un personnage un peu atypique, qui peut peut-être étonner ou énerver, certainement. Et puis, bizarre, quoi, hein.
Ouais, finalement, le succès n'en est que plus savoureux ou vous en fichez de tout ce que...
Non, je ne me fiche pas du succès. Je suis très contente parce qu'il y a eu tellement... Étienne a mis tellement d'énergie pour que ce disque, cette chanson existe. Et que je suis pleine de bonheur, bien sûr.
C'est
bien
votre ange, Dao, quand même. Hein.
C'est... qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je vais être très banale, mais on peut dire que c'est un grand frère, quoi. Il me protège un peu. Il a un regard, en tout cas dans la musique, avec lui. Je suis bien en studio, sur la scène, quand on se parle, quand on écoute des disques et tout ça.
Jour de Fred sur France Inter.
Alors, Dani se confiait à l'excellente Pascal Clark. Alors, une fois de plus, et on l'a constaté en préparant cette émission, on rencontre des artistes qui vous définissent. Un ange, je n'y serais jamais arrivé s'il n'avait pas été là. Il m'a tendu la main au moment où ça n'allait pas. Il y a une générosité chez vous, Étienne Dao, qui est formidable, mais qui est consubstantielle, elle est totalement naturelle.
Mais je crois aussi que... Enfin, vous savez, dans une relation, on prend beaucoup aussi. Si j'ai donné, j'ai beaucoup, beaucoup reçu aussi des personnes avec qui j'ai travaillé. Donc c'est vraiment très, très équitable. Dani m'a beaucoup donné aussi. Elle m'a permis... c'est vrai que ça a été un peu compliqué, c'était un petit parcours d'arriver à faire cette chanson.
C'était une période où elle n'allait pas très bien et
oui,
où c'était compliqué.
C'était un peu compliqué pour elle, oui. Effectivement. Mais le fait qu'elle m'invite dans cette chanson, moi je voulais vraiment produire cette chanson pour elle et qu'elle ait ces 3 minutes pour elle, qu'elle existe dans cette chanson, elle a absolument tenu à ce que je la chante avec elle. Il n'était pas du tout question de ça au départ. Et donc, je considère, moi, que c'est un cadeau qu'elle m'a fait de m'amener dans cette chanson et de pouvoir créer une chanson de Serge qui était une chanson perdue.
Et à l'arrivée, ça a été un comeback.
Cette chanson a été absolument incroyable parce que vraiment, les gens l'ont reçue comme un standard immédiat, ce qui est rare.
Oui. Mais vous auriez pu demeurer un artiste chanteur à succès. Poursuivant votre carrière tranquillement. Et en fait, vous n'avez cessé de travailler pour produire d'autres, pour mettre en contact des artistes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Là, pour les chansons de l'innocence retrouvée, vous êtes avec une équipe de gens avec qui vous avez toujours travaillé, avec qui vous et d'autres avec qui vous n'aviez pas travaillé, mais vous les faites se rencontrer. Il y a une sorte de... Oui, la planète Dao. C'est incroyablement ouvert au monde et aux autres.
Mais je trouve que c'est important. Je trouve ça très frustrant, justement, de ne pas avoir des lieux où on se rencontre, où on se parle, et surtout aussi où toutes les disciplines se rencontrent. Les gens qui font de l'art contemporain, de la littérature, de la musique. Tout est très, très cloisonné. C'est vraiment... je trouve ça très regrettable. J'aimerais que... Ça fait des forces, en plus, quand tous les artistes des différentes disciplines se rencontrent. C'est beaucoup plus ouvert que ça, quoi.
D'avoir été un enfant qui avait eu quand même un traumatisme terrible, l'enfance en Algérie, au moment de la guerre, votre père qui vous avait abandonné, est-ce que tout ça, ça n'a pas développé en vous une sorte de, à la fois de, pas de rage, parce que la rage n'est pas votre caractère, mais de force, d'énergie vitale pour faire des choses, pour créer, et puis en même temps pour rassembler des gens, justement, puisque tant de gens avaient été séparés.
C'est probable, c'est une explication. Vous avez peut-être raison, je ne sais pas, en tout cas, je sais que j'ai une énergie de vie très, très... Très,
très grande, vous levez à 6h du matin, vous avez une vie comme ça très, très ascétique en fait.
Quand je dois me consacrer à ce projet qui est ce disque, oui, je fais tout pour le disque, je compte plus. Oui. Ça passe avant toute chose, c'est sûr. Oui. Oui.
Alors, vous avez eu des hauts et des bas dans votre carrière, comme tout le monde. Il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile. Il y avait des albums sur lesquels vous comptiez beaucoup et puis qui n'ont pas marché comme vous l'espériez. Puis vous rattrapiez parce que vous êtes toujours en éveil. Et au fond, vous arrivez à avoir des rapports harmonieux en permanence avec les gens, avec une très grande douceur et tout. Mais vous êtes très, très fort aussi, très, très coriace. Et on a le sentiment que... Costaud, hein ? J'ai marqué costaud, là. C'est-à-dire, vous êtes à la fois le marin de Gibraltar de Pierre et Gilles, hein ? C'est joli, etc. Et puis, vous êtes aussi le flibustier, comme dans les dessins de Pellaert, pour signifier deux grands artistes illustrateurs, enfin trois, ils sont trois, Pierre et Gilles, qui ont été inspirés par vous. Vous êtes à la fois le doux marin... Et le flibustien intrépide, je me trompe ou pas ?
La douceur, c'est mon apparence, effectivement, oui. Mais je pense qu'il faut être très déterminé, fort pour faire un métier comme le mien, pour poursuivre un chemin et pas être détourné. C'est si facile d'être détourné et conserver sa ligne. Ça demande beaucoup d'opiniâtreté, en tout cas.
En somme, il faut avoir la peau dure.
Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure, fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Seul sur un tas d'ordures, torture, redouter d'être une imposture, froid dur, qui nous gerce le cœur et rouille les jointures. Oui, je les ressens quand les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure, où sont l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure, et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Griffure, je laisse ta triste figure, morsure, ton sang et ses éclaboussures, roulure, les salauds qui peu à peu nous ont à l'usure. Oui, je les ressens dans les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure, où sont l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure, et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure, tes souvenirs ont la peau dure. Fêlure, à chacun son chemin, chacun ses déchirures, mais je les ressens comme toi. Oui, je les ressens. Oui, je les ressens comme toi. Oui, je les ressens comme toi.
Et voilà, La peau dure, une des chansons de des chansons de l'innocence retrouvée. Alors, on a très rapidement évoqué l'Algérie au rang de votre petite enfance. Ce qui a été très important aussi dans l'adolescence, ça a été la reine et très vite les transmusicales.
Essentielles.
Essentielles.
Oui. Ah oui. J'ai toujours dit que j'étais né au transmusical, mais c'est ça, vraiment, le jour où
j'ai
passé.
Les transmusicales.
C'est un festival qui a lieu tous les ans en décembre.
Oui.
Et qui se propose de rassembler tous les artistes en développement, devenir.
Vous aviez quel âge à ce moment-là, Étienne Daho?
J'avais 21 ans.
Et vous étiez déjà allé à plusieurs reprises en Angleterre, non?
Oui, depuis l'âge de 14 ans, je travaillais dans les hôtels les étés, tous les étés.
Bah parce que vos tantes qui vous élevaient, qui tenaient une brasserie Place Blanche, on imagine des tantes espagnoles avec un fort tempérament, et finalement, elles vous laissaient assez libre. Ou est-ce que vous étiez doux et que vous arriviez à les séduire?
Non, elles faisaient tout à fait confiance. Oui. À mon bon sens, on va dire.
Alors, transmusicale.
Elles ont très souvent tort à ce sujet.
Mais oui, elles ont pris des risques quand même, parce qu'un gosse de 16 ans, 17 ans, à Londres ou à Manchester, dans les années, fin des années 60, c'était quand même assez rock'n'roll là-bas.
Oui, mais justement, c'était un endroit et un moment où j'ai pu faire mon éducation tout seul, oui. Ou alors avec des plus grands.
Vous avez pris des risques?
Oui, bien sûr.
Et vous les avez traversés.
J'ai toujours eu un grand besoin d'intensité, de sensations fortes, en fait. Oui. Donc, j'ai toujours été attiré par des situations un peu particulières.
Oui, alors dans l'Angleterre des années 60, c'était extraordinairement chaud, mais aussi extraordinairement créatif.
Oui, il y avait la musique, mais il y avait aussi il y avait un moment où tout était à créer. C'était avant les punks. Il y avait cette chose qui était en train de monter et que je ressentais très fort.
Oui, et à quoi vous êtes resté fidèle? Parce que votre vie était à la fois, je vais continuer à vous faire des compliments, vous dites que je fais toujours trop de compliments, mais moi qui suis, je ne veux recevoir dans cette émission que des gens que j'admire. Alors aujourd'hui, je suis servi. Donc, autre compliment, il y a une fidélité chez vous, enfin on l'a dit, la fidélité des femmes, et fidélité aux thèmes aussi que vous avez aimés, donc les musiques que vous avez aimées quand vous étiez adolescent. Et en même temps, Il y a quelque chose en vous, ces musiques anglaises ou américaines notamment, mais il y a aussi une fidélité à la France, quelque chose de très profondément français, et une fidélité aux marges de la France qui font tenir le pays, et même aux bas-fonds qui le soutiennent. Et je dis ça pourquoi ? Parce que je pense à ce que vous avez fait à partir de Jean Genet. Quand est-ce que vous avez découvert Jean Genet ?
J'ai découvert, je pense, à 15 ans.
À 15 ans, oui.
J'avais entendu David Bowie en parler.
Oui.
Et ça m'avait donné envie de lire des ouvrages de Genet.
Comme vous lisiez William Blake à 13 ans, Les Chants de l'innocence, que vous retrouvez presque 40 ans plus tard pour faire le disque.
Oui, tout à fait. Mais on est poursuivi comme ça par des œuvres.
Oui.
Et il y a des signes.
Oui. Mais moi, j'ai envie de faire des choses que j'ai eu envie de faire à 13 ans.
Il y a des cycles comme ça. Et c'est la première chose que j'ai vue en rentrant dans la garçonnière que je louais à Londres.
Oui.
Quand je suis parti là-bas pour faire le disque, j'ai vu la même édition avec la même couverture.
Et donc, c'est resté.
Voilà. Oui, oui. Oui.
Et alors, l'adolescent qui lit Jean Genet à 15 ans à Rennes, tout de suite, il se dit que c'est très important.
Oui, je sentais cette chose que je sentais aussi... Dans les musiques du Velvet Underground et de tous ces artistes à la marge.
Ouais.
C'était une manière
de
se construire. Oui, pour moi, c'est la même chose.
On écoute Jean Genet. Je suis né à Paris le 19 décembre 1910, pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs. Elles me rendent au passage un hommage, s'inclinent sans s'incliner, mais me reconnaissent.
Jour de Fred. Frédéric Mitterrand.
C'est un texte magnifique.
Hein? Un texte magnifique et une diction incroyable.
Incroyable, oui. Avec le changement dans la voix, hein, qu'on remarquait, on ne parle plus de la même manière et c'est bien dommage.
Rien à voir, oui.
Oui. On a perdu la forme interrogative, hein. On dit « c'est quoi ça ?» Tout le monde dit ça maintenant. Enfin, moi j'essaie de ne pas le dire, mais c'est quoi ? On a perdu l'accent tonique, il y a un accent tonique en français. Donc toutes les syllabes ont le même volume et la même sonorité, c'est pas vrai.
Et les ouvertures sur les « haies » aussi, enfin, ça me frappe.
Oui.
Et tout semble placé en haut, quoi.
Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de clarté, d'aigu.
Oui. Quant au subjonctif, le pauvre, il a vraiment mauvaise mine. Il faudrait vraiment essayer de le requinquer. Mais quelqu'un qui utilise bien le subjonctif en revanche, et qui utilise bien la langue française, et qui utilise bien l'accent tonique, et qui a une diction admirable, c'est Jeanne Moreau.
La chanson qui traverse un monde ténébreux, c'est le cri d'un marlou, porté par ta musique. C'est le chant d'un pendu, raidi comme une trique. C'est l'appel enchanté d'un voleur amoureux. Un dormeur de 16 ans appelle déboué, que nul marin ne lance aux dormeurs affolés. Un enfant reste droit contre le mur collé. Un autre dort, bouclé dans ses jambes nouées.
Alors Étienne Dao, vous récitiez en même temps que Jeanne Moreau. Alors pourquoi Genet, pourquoi Jeanne Moreau ? Ben parce qu'il y a eu un moment absolument miraculeux au théâtre il y a 3 ans, c'est ça ?
Oui, à l'Odéon.
Oui, à l'Odéon, alors chez Olivier Py, où Jeanne Moreau et vous avez dit le condamné à mort.
Oui, et chanté.
Et chanter, bien sûr. Et alors, c'était un moment extraordinaire. Là encore, on est dans la Daomania à son meilleur, puisque quand même, vous avez Genet, Jeanne, l'Odéon, les chansons que vous avez instillées, le souvenir d'Hélène Martin, qui avait elle-même énormément travaillé.
Tout, oui, tout qui ça, a composé la musique.
Une construction ouais. incroyable.
Oui, ce sont des combinaisons absolument improbables. Déjà, la rencontre avec Jeanne est improbable. Et elle a été très, très belle, très fluide, très chaleureuse. On s'est beaucoup apporté l'un et l'autre. C'était vraiment tellement particulier d'amener une musique qui était un peu pop et la littérature, le théâtre, tout ça mélangé, donnait un ovni, vraiment.
Mais ça, le résultat était magnifique. D'ailleurs, c'était plein tous les soirs. Hein.
Oui.
Ça a été un triomphe. Hein.
Contre toute attente, oui, c'est ça qui était fantastique, c'est d'avoir un succès avec un projet aussi casse-gueule, en fait.
Oui. Alors, je voudrais passer de Genet à Francis Bacon. Oh. Parce que Francis Bacon, moi, j'avais vu un film incroyable où on voyait Francis Bacon ivre, mort dans son atelier, qui se disputait avec le caméraman qui faisait le film. Et il était à la fois odieux et magnifique. Et on avait envie d'être avec lui. Il exprimait une souffrance et une puissance incroyables. Et je crois que vous portez un intérêt particulier à Francis Bacon.
Depuis toujours, oui. J'avais fait des études d'art plastique et j'avais tout de suite été frappé par les tableaux de Bacon. Et quelques années après, Gainsbourg m'avait offert un livre de reproduction. Et ça avait réactivé mon intérêt pour Bacon, qui ne m'a pas quitté. Et cet album a été très inspiré par sa présence, en tout cas. Même deux chansons ont été inspirées par la relation avec George Dyer.
Qui était le voyou qui était venu pour le voler,
voilà,
et qui était sa
muse.
Voilà.
Une relation très, très brutale, très cruelle.
Pleine de souffrance et d'amour en même temps. Enfin.
Oui. Moi, j'étais vraiment très intrigué par la relation muse-artiste. Quoi. Cette cruauté-là, c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, ça a inspiré deux chansons sur le disque.
Et George Dyer s'est suicidé, lui.
Oui, à Paris, la veille de l'exposition au Grand Palais, la première grande exposition de Bacon au Grand Palais.
Alors, dans le monde des artistes, alors ça c'est vraiment un lieu commun de le dire, mais pourtant c'est un fait, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de vies très très difficiles, il y a la présence de la drogue, il y a l'angoisse du succès, de l'échec, il y a la prédation, enfin voilà. Et vous êtes passé entre les gouttes.
Oui, mais je crois que, enfin, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, je crois que j'ai un instinct de vie extrêmement fort parce que la mort, je crois que j'ai vu ce que c'était. Je reconnais son odeur, en tout cas, parce que tout petit, j'ai vécu dans ce climat.
À Oran.
Oui, et ça, je pense que ça a beaucoup contribué à faire de moi quelqu'un qui est absolument fasciné par la vie.
Alors sur ce...
Et ma fascination de la vie fait que je suis mon propre protecteur, enfin, quand il y a... une partie de moi qui a envie de glisser. Vraiment, c'est grisant de se laisser, emporter.
Il y en a une autre qui le rattrape.
Il y en a une autre qui le rattrape.
Oui. Alors, il y en a une qui n'a pas été rattrapée, mais qui a quand même, tout au long de sa vie, fait que des belles choses. C'était Fréhel.
Il a brisé mon cœur de femme. Et depuis je vais partout où l'on voit, dans toutes les maisons où l'on souffre. Je sors tous les soirs espérant le voir, et le champagne emplit ma coupe. Quand je suis grise, je dis des bêtises, j'amuse les gigolos. Comme les copines, je me morphine, ça me rend tout rigolo. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau. L'esprit s'envole et mon chagrin s'enfuit tout loin. Je deviens folle.
Alors on va me dire, mais pourquoi Vous recevez Étienne Dao et puis vous lui passez que des chansons françaises et des choses. Mais parce que
Mais
pense.
J'adore ça.
Oui, parce que je pense aussi que ça fait partie de votre univers.
C'est une double culture de la langue française et des rythmes anglo-saxons.
Et quand on vous écoute, on sent très bien que vous avez tellement assimilé, tellement construit avec les rythmes anglo-saxons. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais rappeler qu'il y avait ça aussi chez vous. Et ça contribue, je crois, à enrichir l'image que l'on a de vous plutôt que l'appauvrir. Alors, juste encore une dernière chose sur le passé. Vous qui n'êtes pas vraiment porté sur le passé, qui est certainement porté, qui en revanche porté sur la transmission, sur l'héritage, sur ce qu'on possède, mais vous n'êtes pas nostalgique. Pas du tout, oui. Alors moi, je suis très nostalgique. Et alors, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on a des villes en commun qui sont à la fois des villes de nostalgie, mais en même temps des villes de grande création. Rome, Berlin, Lisbonne.
Mm-hmm. Hein? Absolument.
C'est étrange que des lieux qu'on peut aborder de manière très nostalgique soient des lieux d'un dynamisme culturel formidable. Oui. Est-ce que vous avez vu le film La Grande des Bellettes, hein?
C'est un des films que j'ai préféré l'année dernière.
Ah, mais écoutez, on va faire des émissions tous les jours.
C'est sublime.
Bon, Étienne Dao va faire des émissions tous les jours. En attendant, on va encore vous écouter. Allez.
Les paysages des films. Combien de ports, combien de villes. Dans ce train qui me balance. Ce tempo sacré de ma chance. Fugitif et mercenaire, mais mon exil est volontaire. Si mon existence a brillé, la lune n'a pas fini de briller. I wanna be the only one. Et nul ne m'entend. I wanna be the only one.
C'était vous, Étienne Lao, avec Yann Wagner.
Yann Wagner.
Oui, je prononce ça, c'est terrible. Yann Wagner. The Only One. Alors ça, c'était l'album précédent.
Ça, c'est en fait une participation à l'album de Yann Wagner
qui
m'a demandé de chanter avec lui en duo.
Une fois de plus, quelqu'un à qui vous avez apporté et avec qui...
aussi apporté, je redis la même chose.
Non, mais d'accord, mais quand même, c'était... Alors, dans le cadre de ces échanges qui caractérisent votre vie, et déjà malheureusement, Étienne Dallon est presque à la fin de l'émission, il y a eu un échange, j'ai le sentiment, qui a été particulièrement fort, un échange vraiment only you, comme le disque qu'on vient d'entendre, et c'était avec Jacques Nau.
J'avais adoré réaliser « Tombé du ciel » d'Higelin. J'aime bien les apports des autres gens. Et puis moi, j'aime bien foutre mon grain de sel quand j'ai moyen ailleurs. Quoi.
Et dans cet album, c'est toi qui as réalisé ?
C'est moi et Étienne Dao. Parce que en ce qui concerne les voix chantées, moi, je ne peux pas m'entendre. Donc, obligatoirement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait du recul à ma place. Et donc, quelqu'un de talent et de confiance. Donc, Étienne, c'était génial pour ça.
Vous vous connaissiez depuis longtemps ? Vous aviez déjà collaboré ensemble ?
Oui, parce qu'on avait fait le sens inverse pour son premier album que j'avais réalisé. Donc c'est assez marrant comme retour de je ne sais quoi, de manège, de manivelle.
Voilà, on va se quitter déjà.
Ça passe à une vitesse.
Terrible, mais je voulais qu'on entende Jacques Nau parce qu'il a vraiment beaucoup compté pour vous.
C'était un frère, ça me remue beaucoup d'avoir écouté sa voix. Ça me manque beaucoup de ne pas l'entendre.
Oui, moi je l'avais rencontré une fois, j'avais trouvé que c'était un être absolument formidable.
Ah, c'était un être d'exception.
Alors on se quitte là-dessus, on se quitte en rappelant que vous êtes en tournée, en rappelant que les chansons de l'innocence retrouvées, votre dernier album, viennent de sortir, et en rappelant aussi que Marianne Faithfull est dans notre cœur, on l'entend là comme ça, un petit peu en contrepoint, et c'était la dernière présence féminine qui nous accompagne pour cette émission que j'ai eu tant de plaisir à faire avec vous, Étienne Dao.
Merci beaucoup.
Une émission qui est réalisée par Hélène Bizio, préparée par Vanina Scalia et Thomas Ferrezou, à la technique Benjamin de la Gâtinée et Alain Gattan. Benjamin de la Gâtinée et Alain Gattan, la programmation musicale était assurée par Djoubaka, et demain, nous serons en compagnie de